Des aides pour Mayotte et le Vanuatu, des aides aussi pour l'aménagement des terrains agricoles privés et puis des débats autour des tarifs de l'électricité au programme de ce journal. Le journal de 7h, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Le pays débloque des aides pour le Vanuatu et Mayotte.
Une même discussion pour deux catastrophes hier en Conseil des ministres. Le gouvernement avait déjà prévu d'étudier un geste financier à l'égard de Mayotte, dévasté par le passage d'un cyclone. S'est ajouté lundi un désastre beaucoup plus proche du Fénois, le Vanuatu secoué par un puissant tremblement de terre qui a provoqué d'importants dégâts. Les opérations de secours sont toujours en cours et à ce stade, 16 morts ont été officialisés par les autorités, dont un ressorti français retrouvés dans des décombres. C'est dans ce contexte que l'exécutif polynésien prévoit donc une aide financière de 3 millions à l'égard de Mayotte et de 5 millions pour le Vanuatu. Des montants fixés en fonction des possibilités budgétaires et en référence à ce qui s'est déjà fait par le passé, précise le président. Les aides, si elles sont validées par l'Assemblée, qui doit ouvrir une session extraordinaire aujourd'hui, vont être fléchées vers les organismes les plus efficaces. Au ministère de l'Intérieur de les désigner pour ce qui est de Mayotte.
Ces aides vont être fléchées vers les organismes les plus efficaces. On est toujours dans l'attente pour Mayotte, puisque c'est le ministère de l'Intérieur national qui gère la situation de crise à Mayotte. Pour le Vanuatu, on a eu une réunion hier avec les services du haut-commissaire qui sont en relation avec le dispositif FRONT, et on nous a donc fait remonter que l'organisme adéquat serait la Croix-Rouge.
Et le pays avait aussi, lors de certaines catastrophes naturelles passées, mis en œuvre ses moyens humains et logistiques. L'affrètement du Tahiti Nui après l'éruption du Hunga Tonga à Tonga début 2022, ou l'envoi de pompiers lors de graves incendies qu'avait connu la métropole quelques mois plus tard. Mais cette fois, la possibilité d'affréter un bateau de la flottille administrative est exclue.
On vous avait suggéré d'affréter le Tahiti Nui pour embarquer des hommes, des vivres, etc., etc. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Vous savez, l'affrètement du Tahiti Nui, c'est 20 millions. Donc c'est une dépense finalement fixe qui viendrait obérer tout dispositif qui serait mis en œuvre, sauf s'il s'agit d'un dispositif de très grande ampleur.
De son côté, le maire de Pirae, Edouard Fritsch, a en outre proposé au commissaire de constituer une équipe intercommunale de sapeurs-pompiers pour s'associer, dit-il, au secours organisé en faveur de nos frères et voisins du Pacifique. Proposition qui n'a pas encore trouvé de réponse officielle du côté de l'État.
Et toujours du côté du Conseil des ministres, le gouvernement a validé une nouvelle revalorisation du prix du copra.
À partir du 1er janvier, il passera donc de 155 francs à 165 francs le kilo, une hausse qui vise à soutenir la reprise de la production en baisse depuis 4 ans. Plus de 5000 copraculteurs devrait bénéficier de cette mesure. Pour rappel, le 1er août, une première hausse de 5 francs avait été actée. Bref, des coups de pouce pour lesquels les demandes sont nombreuses, selon le ministre.
Le gouvernement, au travers des aides dispensées par la direction de l'agriculture, et j'ai, au cours de cette année, signé différents arrêtés qui, quand même, montrent une volonté de reprendre ces filières d'exploitation de nos cocoteraies. C'est des demandes donc d'aide pour des installations de séchoirs à copra, pour la mise en place de bacs d'aluminium sur les troncs cocotiers, et également c'est ces demandes d'intrants organiques pour fertiliser et que les productions coco soient plus importantes.
Le ministre de l'Agriculture qui précise toutefois que cette hausse du prix est valable seulement pour la catégorie du copra de première qualité pour encourager les exploitants à améliorer la qualité de leur production.
Il est 7h04, le pays lance son aide à l'aménagement des terrains agricoles privés.
Oui, près de 6 mois après avoir été voté à Tarahoy, le dispositif de soutien aux propriétaires de terrains privés inexploités souhaitant en faire des terres agricoles est opérationnel. Il s'agit d'une réforme des aides déjà existante depuis 2017 mais jugée insuffisante, qui propose une prise en charge jusqu'à 100% des études préalables mais aussi des travaux d'aménagement de ces terrains tels que le terrassement, la création de pistes d'accès ou encore l'installation de réseaux hydrauliques. Jérôme Le Cerf, adjoint à la direction de l'agriculture.
Et on se rend compte que le coût des travaux pour l'aménagement foncier sont très importants. On est maintenant entre 1 et 5 millions l'hectare en aménagement, selon s'il y a des pistes à faire, si on sait de l'aménagement hydraulique à faire. Et la plupart des porteurs de projets ne sont pas en capacité de financer leur quote-part. C'est pour ça que ce dispositif, il permet d'aller jusqu'à 100%. Mais à côté de ça, le pays essaie d'avoir plus de garanties pour que l'objectif de valorisation agricole soit atteint.
Des garanties qui avaient été demandées par le CESEC dès janvier dernier. Les conseillers s'étaient dit réservés sur cette idée de financer avec des fonds publics des accès et des aménagements qui resteraient 100% privés et qui pourraient donc in fine échapper à leur objet initial. En réponse, le gouvernement assure avoir posé ses conditions avant de distribuer l'enveloppe de 200 millions prévue pour 2025. Les terrains doivent être classés en zones agricoles protégées. Les projets agricoles eux-mêmes seront évalués sur des critères comme la valeur ajoutée économique, la création d'emplois et l'expérience des exploitants. Des preuves de formation seront aussi exigé. Et pour le ministre Tevinitei, ce mécanisme va permettre d'accélérer le développement agricole.
On vous parlait cette semaine de ces inaugurations de fermes solaires à Taravao. Eh bien, elles ont engendré du débat dans le sud de Tahiti.
Oui, ça n'est pas que les habitants de la presqu'île soient en guerre contre le photovoltaïque ou l'énergie renouvelable. C'est même l'inverse. Mais certains se demandent pourquoi le sud ne profite pas davantage de l'énergie propre et peu coûteuse des fermes et barrages. Il se trouve que l'essentiel de ces moyens de production sont situés dans la zone. Il se trouve aussi que les tarifs de l'électricité dans la zone sud restent aujourd'hui plus élevés qu'au nord. En cause, la réglementation de l'achat d'énergie par le SECOSUD, le syndicat qui gère le réseau depuis Hitia jusqu'à Tevahiuta. La facturation, elle se base sur un mix énergétique fixe, 2/3 de thermique, 1/3 de renouvelable. Un rapport que Anthony Jamais voudrait faire évoluer.
Ce qu'on voudrait, c'est qu'on inverse cela. Que l'énergie renouvelable constitue au travers du mix la composition qu'il faut pour influer sur le tarif. Pourquoi ? 28 francs le mix énergétique et on prend l'exemple de ces deux fermes-là, vous avez une production à 20,49. Ça fait presque un écart de 8 francs. Et pour la production hydroélectrique, elle est à 15 francs en moyenne. Imaginez si nous accédons directement à ce tarif bénéficiaire, c'est sûr que les entreprises seront intéressées à venir chez nous.
Voilà, l'objectif c'est donc de revoir les règles de facturation de l'électricité à la zone sud pour faire baisser les tarifs. Alors lors de l'inauguration, c'est le ministre des Finances justement qui faisait face à Anthony Jamais. Oren Dexter, lui, voit surtout les conséquences qu'aurait un tel projet. Si les factures baissent au sud, elles augmenteront au nord, d'où sa réponse plutôt mitigée.
Il faut qu'on regarde, mais j'ai envie de dire que les grands principes sur la politique énergétique, c'est qu'il faut raisonner réseau et solidarité. Donc a priori, je dirais que c'est compliqué d'aller dans son sens, parce que sinon, si tout le monde faisait la même chose, on privatiserait en quelque sorte la production d'électricité dans chaque territoire.
Warren Dexter qui reconnaît tout de même que le prix de l'électricité au sud est un sujet à étudier.
100 millions pour rendre le golfe de Tahiti plus sexy.
C'est une question qui revient régulièrement dans les rangs de l'Assemblée. Que faire de l'EGAT, cette EPIC dont les comptes avaient été mis un temps sous surveillance et dont les activités ont été recentrées sur la gestion du golfe d'Atimaono reste largement déficitaire. Alors lors de l'analyse du budget 2025 à l'Assemblée la semaine dernière, les 150 millions de dotations de fonctionnement annuel ne sont pas passé inaperçu. Dans l'opposition, Nui Olore a proposé de la réduire d'une vingtaine de millions pour créer l'électrochoc, la prise de conscience sur le manque de viabilité financière de l'établissement de Papara. Avant de rappeler deux des revendications majeures d'un rapport saignant réalisé en 2018 par la CTC, réfléchir à la pérennité de cette EGAT et à la privatisation du golfe. Eh bien, le gouvernement ne semble pourtant de prime abord pas aller dans le sens d'un retrait d'Atimaono. La partie investissement du même budget comporte en effet une ligne beaucoup moins discutée la semaine dernière de 100 millions de francs au bénéfice de l'EGAT, une dotation exceptionnelle qui doit lui permettre de réhabiliter son 18 trous en vue notamment des Jeux du Pacifique de 2027 qui se dérouleront sur ce parcours. Un grand chantier jugé nécessaire par le directeur de l'établissement Herman Meulier et non pas seulement à cause des Jeux du Pacifique.
Alors aujourd'hui, on a besoin de réhabiliter le golf pour le rendre d'abord plus accessible et beaucoup plus, j'allais dire, sexy pour le golfeur et également de le remodeler un peu parce que le parcours n'a quasiment pas changé depuis 54 ans. Donc il y a un shaper qui doit venir pour nous donner des conseils. Et donc ça va être une des priorités, d'abord effectivement pour les Jeux du Pacifique 2027, mais également pour rehausser encore le parcours et développer notre activité commerciale.
Il s'agit donc de trouver un équilibre pour rendre la compétition plus excitante sur le parcours pour les visiteurs, tout en contentant les clients habituels. Le golf, malgré un passage de 300 à plus de 550 adhérents depuis 2018, doit impérativement attirer des touristes pour espérer approcher l'équilibre financier. Et ce besoin d'activité touristique pour rendre le golf de Tahiti viable économiquement, personne ne l'ignore, surtout pas les élus de l'Assemblée. La semaine dernière, Moeté Brotherson avait répondu à la proposition d'amendement de Nui Olore, rappelant qu'il n'existe pas un golf au monde qui soit bénéficiaire en étant qu'un golf sans activité. Connexe. Le chef du gouvernement a cette fois ajouté qu'un projet sérieux porté par un consortium d'investisseurs locaux connus et qui ont de l'expérience dans l'immobilier, le tourisme ou la gestion de prestations nautiques lui avait été présenté.
Ces investisseurs sont venus me rencontrer à la présidence pour nous présenter ce projet de zone d'activité, donc sur le domaine d'Atimaono, avec plusieurs zones, avec une partie culturelle, une partie bien-être, santé, une partie nautique, avec la mise en place d'une marina et ces villas golfiques. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble qui est envisagé. Également une intégration agricole. Les promoteurs, évidemment, y croient très fortement. Et je pense que c'est réellement vers ça qu'il faut qu'on s'oriente pour cette zone-là.
Mais pas question, bien sûr, de construire un complexe touristique en laissant le golf à un établissement public. Comme le confirme Herman Meul, le projet de réhabilitation a aussi pour objectif de mettre le site aux standards internationaux qui permettraient donc à des investisseurs de l'utiliser pour attirer de la clientèle étrangère et donc au passage de mettre le golf en privé. Reste à savoir si ce projet, pas le premier ni le dernier sur un site de 75 hectares, se concrétisera ou pas.
Opération de recherche dans la Maroto.
Oui, un homme de 73 ans, chasseur expérimenté, nous dit Polynésie la Première, est porté disparu dans la vallée. Sa disparition a été signalée hier soir. Des opérations sont en cours, notamment avec les pompiers de Hitia, des chasseurs de la commune et l'hélicoptère dauphin de l'armée.
Notre reine de beauté, notre Miss Tahiti, est bientôt de retour au Fénois.
Oui, Taimanava Domingo arrivera ce dimanche 22 décembre à 22h à l'aéroport. Le comité Miss Tahiti appelle à venir l'accueillir, même si elle n'a pas fait partie des finalistes de Miss France cette année. Son parcours est jugé remarquable par le comité local. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h30 pour la revue de presse locale.
Merci beaucoup Valdemar pour ce journal. Maintenant, c'est la météo sur Radio.